Okay, we've got Mervyn.
Bonjour, je suis Ryan. Je suppose que cette session est à 8 heures du matin et je pense que cette semaine, il y a tellement eu d'événements le soir que cette heure est un peu une heure. On est un peu demeure pour que les gens soient là. Si on avait quelque chose sur les nouveaux GTLD, on aurait certainement une salle pleine, hein, mais bon. Une des sujets sur lesquels nous regardons en tant que Bone et regardons la structure de responsabilité de la CAN. Il y en a trois. Il y a des fonctions de la fonction de l'ombudsman, qui a la fonction d'un médiateur. Il essaye de faire de la médiation donc entre les deux groupes pour qu'on puisse voir s'il y a des résultats acceptables. Ensuite, il y a le board. La plupart des demandes qui viennent sur le board ne passent pas le seuil. Donc, le board n'a pas forcément des discussions prolongées sur ces problèmes spécifiques parce que ces problèmes n'ont pas rencontré les critères. Donc, ensuite, nous avons un tribunal de révision indépendant qui n'a été utilisé qu'une fois à un coût très élevé. Il y avait des millions de dollars de chaque côté. Et on a eu peur de ce ne serait pas toujours disponible pour toutes les organisations. Ce serait seulement disponible pour les organisations qui en avaient les moyens. Donc, on a élu un panel d'experts. Nous avons Graham qui est là aujourd'hui. On a deux autres membres du panel au téléphone. C'est une opportunité ici pour les gens, pour que les gens puissent donner des commentaires et aussi d'écouter ce qui s'est passé avec le travail du panel jusqu'à présent. Une chose que j'ai reçue en tant que commentaire, d'autres, pas forcément du panel, mais des gens qui ont été entrevus par le panel, des commentaires qui ont été utilisés afin de faire des révisions. Et nous aimerions avoir plus de temps pour réviser les matériaux que nous avons reçus. Si le panel pense qu'il a besoin de plus de travail, de temps pour faire du travail, pour faire les choses de bonne façon, on n'a pas envie d'être dans l'urgence sans avoir assez de matériaux pour travailler. Donc voilà, c'est un peu un résumé sur le travail qui a été fait jusqu'à présent. Si vous avez des commentaires ou si vous voulez plus de temps, et aussi, nous sommes là pour écouter les commentaires du public. Merci, Bruce. Graham McDonald, au micro. On a beaucoup de monde ce matin. On va pouvoir vraiment discuter, puisqu'on est si peu. Donc, comme Bruce l'a dit, le panel a été établi par le board, par le commission de gouvernance du board cette année. Nous avons développé un plan de projet pour faire une révision avec des directives de révision. Nous avons fait des ateliers de travail. Nous avons eu des conférences téléphoniques et des réunions. Donc, je rassemble mes documents, ma présentation du moins. Nous y voilà. Oh, ouais. Nous avons demandé s'il y avait des intérêts qui pouvaient être exprimés. Nous cherchons vraiment les commentaires de la communauté en ce qui s'agit des processus qui existent déjà et sur les problèmes que les membres pourraient avoir dans l'accès de ces processus. Notre prochaine performance, vraiment... Vous verrez que nous avons regardé l'historique de la structure précédente. Nous avons considéré les recommandations du comité stratégie du président qui est sorti il y a peu. Nous avons révisé l'historique de tous les cas et tout cela sera dans le rapport annuel. Et pour la reconsidération, et Nous sommes sur les... il y a donc 11 recommandations qui ont été placées devant le board, dont 11 candidatures. Nous comprenons l'inquiétude de la communauté. Il y a un manque de consensus sur la mise en place de certaines de recommandations qui ont été faites dans le passé, par le passé. Et nous espérons que nous aurons assez de suivi après notre travail, de feedback, afin d'adresser ces inquiétudes qui ont été exprimées auparavant. Ce qui nous a guidés, il y a beaucoup de choses que nous avons observées quand on regarde la structure de l'ICANN dans les circonstances actuelles et pas ce qui s'est passé par le passé. Nous voulons construire sur ce qui a déjà été fait, sur les recommandations qui ont déjà fait. On ne veut pas continuer à dire ce qui s'est passé, ne pas regarder cela et recommencer. Nous voulons vraiment regarder vers l'avenir et nous voulons faire des améliorations pour cet avenir. Les choses qui nous ont mis en garde, améliorer l'efficacité de la structure qui existe déjà, regarder à l'efficacité des processus en incluant bien sûr le coût dont Bruce a parlé. Nous voulons aussi essayer d'accélérer ces processus afin que les résolutions soient plus rapides, surtout au stade des révisions indépendantes qui, comme vous le savez, il y en a un cas précis qui avait pris 21 mois pour que cette application a été déposée. Donc, nous voulons essayer d'avoir un accès plus facile à la structure, aux structures et aussi de régler les problèmes qu'il y a entre les personnes, entre les parties, le plus vite possible et donc qu'une bonne méthodologie soit appliquée. Donc, les principes qui nous ont guidés se trouvent dans les articles et dans les statuts de ICANN. Nous avons regardé les affirmations d'engagement et nous voulons assurer qu'ils soient bien inclusifs, efficaces et ouverts. Nous avons révisé les processus de l'ICANN. On doit dire que les exigences légales sont telles que le board retient la responsabilité pour prendre des décisions. Et comme vous le savez, ICANN est incorporé par rapport au statut de la Californie. Et en tant qu'une incorporation à but non lucratif, à partir de cette loi, le board a donc retenu la responsabilité pour prendre les décisions. Alors, il n'y a pas de recommandations qui ont été faites de ce côté-là. Donc, nous savons aussi que le board doit agir dans l'intérêt, le meilleur intérêt de l'ICANN, il soit objectif, soit juste et neutre, en prenant en compte les intérêts de la communauté ICANN. Comme je l'ai dit, nous avons regardé les recommandations précédentes de ICANN dans les mécanismes de révision. Et des choses que nous recommandons sont des choses qui ont déjà été discutées dans le passé et qui sont toujours pertinentes aujourd'hui. Bruce nous a parlé des structures de révision, nous a donné les grandes lignes des structures de révision actuelles. Le rôle du ombudsman, comme vous le savez, le ombudsman fait son travail dans les cas où il y a des injustices et ça lui donne quand même une ampleur de travail assez grande, assez large. Aussi, les reconsidérations qui doivent être faites par la commission de gouvernance, qui est donc une commission qui fait partie du board. Et là, la commission peut regarder deux choses. Peut agir vis-à-vis du personnel ou voir s'il y a des problèmes de conformité vis-à-vis des statuts dans les décisions du board. Encore une fois, le grand GC fait des recommandations au board qui doit les considérer et agir là-dessus, d'une façon ou d'une autre. Et la chose finale et la plus controversiale, c'est le système de révision, le panel de système de révision qui est administré en ce moment par le Centre international de la résolution des litiges. Et Bruce, comme Bruce l'a dit, il y a eu un cas qui a été complété, qui est devant le panel depuis 11 mois. On n'est même pas arrivé au stade de l'écoute. Il n'y a donc vraiment pas de décision encore qui vont être données par le board. Et on ne s'attend pas à ce que ce soit imminent. En termes de nos sentiments aujourd'hui, en ce qui s'agit de ce qui a besoin d'être fait ou changé, le Ombudsman semble être assez accessible. Il vient toujours aux réunions de ICANN, il est toujours disponible pour tout le monde, tous les gens qui veulent l'approcher. Et ensuite, si on parle des révisions de reconsidération, il y a des tas de choses qui s'appliquent également, de façon égale à tous ces processus. L'ampleur doit être élargie tout de même pour inclure les moments où donc le board n'a pas agi correctement, où il peut y avoir des mauvaises représentations, ou qu'il y ait de la fraude. Couramment, il me semble que rien de cela ne se produit. Encore une fois, les processus doivent être clarifiés, surtout pour définir les termes qui sont utilisés. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut dire par politique ? Politique, comme le board l'a soutenu, comme une politique formelle ou une politique qui pourrait des fois juste être l'existence de quelque chose que tout le monde accepte en tant que tel. Il y a d'autres termes qui doivent être définis, tels que la mauvaise information du matériau. Donc devrait y avoir plus de consistance. Il n'y a pas de limite de temps, par exemple, en ce qui s'agit des processus de révision du panel indépendant. Nous pensons que le temps doit être raccourci. Il devrait y avoir une limite de temps qui devrait être introduite à la IAP, au processus de l'IRP. Une fois que les décisions doivent être atteintes par le board, pas seulement vers les parties, mais le sujet de ces décisions est affecté. Donc, il y aura plus de certitude. Les choses devraient être plus. Les résultats devraient être plus certains. Et si c'est quelque chose dont c'est quelque chose dont nous sommes conscients et nous allons y regarder plus précisément. Nous allons observer plus précisément. Bruce Tankin. Charine, si vous pouviez venir au micro. Mervyn King, je ne peux pas vous entendre, Bruce. Bruce, oui, nous réparons le problème, soyez patient. Charine Chalabi, excusez-moi, je suis désolée, on parlait du processus de reconsidération et la révision. Et la première chose que vous avez mentionnée, il fallait élargir l'ampleur pour inclure les problèmes ou quand le board a agi sur des mauvaises informations ou de la fraude. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Est-ce que c'est le board ou c'est le comité de gouvernance du board? Oui, c'est le board. Graham dit non, c'est le board. Si quelqu'un fait une candidature pour le GTLD, lors de les candidatures de nouveau GTLD, et nous donne des informations incorrectes, et que le board a accepté cette information et agit vis-à-vis de cette information pour donner ce nouveau GTLD, et qu'on voit par la suite qu'il y a eu de la fraude sur la candidature, pour décevoir donc le board, et je pense qu'il y a une autre partie qui pourrait être concurrente pour ce même GTLD. Donc le board, puisque a fait une motion et qu'il y a une fraude, le board va réagir, mais il pourrait un litige sur le cas où, oui ou non, il y a eu de la fraude. Donc il faut avoir une méthode pour déterminer cela. Il faudrait qu'il y ait une méthode pour déterminer cela. Ray Prosak, merci. Quand nous sommes vus avec le GAC hier, cette discussion est arrivée. Ils ont reçu une information qui était fausse et on en a discuté. Qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? Je pense que, comme on l'a dit hier, nous devons vraiment savoir exactement ce que nous allons faire. C'est un problème de processus. Je pense qu'il y a une différence vis-à-vis de l'idée qu'il puisse y avoir une perception que le board va réagir si quelque chose n'a pas été bien représenté ou encore plus diaboliquement qu'il le ferait. Comme si c'était une cabale, disons, parce qu'il leur manquait des documents, quelque chose comme ça. Parce que si vous regardez cela en termes de le board a réagi sur un ensemble d'informations qui a été ensuite trouvée incorrecte, c'est une chose. Si la pensée, le sentiment d'abord est que le board a fait cela de certaines façons, que c'était une activité plus ou moins frauduleuse, là c'est vraiment une action totalement différente. Graham, au micro. Oui, je ne pense pas que nous pensions que le board était inclus dans cette fraude. C'est plutôt informationnel sur la manière dont le board va réagir. Il y a beaucoup d'autres, peut-être, manières de le faire. Nous suggérons un autre mécanisme qui pourrait peut-être élargir le processus de révision. Le mécanisme actuel nous dit que nous ne pouvons pas en ce moment donner le processus qui est en place maintenant ne peut pas résoudre ce problème. Si on a donné au board des informations incorrectes en ce moment, on focalise sur le fait que s'il y a une mauvaise information qui est donnée, que le board... la focalisation est sur une nouvelle information. Je pense que là, on parle des informations qui étaient données au board et qui étaient incorrectes. Là, nous parlons seulement des informations incorrectes que aurait reçues le board et que le board ensuite aurait pris une décision basée sur ces informations incorrectes. Mervyn, au micro, vous avez absolument raison. Ce que je pense que la plateforme assez étroite qui fait démarrer cette reconsidération, surtout cette nouvelle information que le board devrait avoir été mise disponible vis-à-vis du board ou qui n'était pas disponible ou était disponible, c'est là qu'on devrait reconsidérer. Mais je pense que c'est plutôt quand le board n'a pas eu la bonne information ou la mauvaise information ou que le board a été mal informé. Et là, c'est là où il faudrait qu'on trouve quelque chose pour démarrer un processus de reconsidération. Si vous avez raison, Bruce, merci Mervyn. Bill Graham. Je suis complètement d'accord avec la notion d'élargir l'ampleur de ce processus. C'est logique. Comment pourrions-nous enlever donc ce problème que trouve le board, si quelqu'un vient et dit vous avez agi sur les informations frauduleuses. Mervyn, au micro, oui, c'est ce que j'appelle dans mon langage de la mauvaise information. La mauvaise information qui peut amener une reconsidération, que ce soit fait de façon intentionnelle ou inintentionnelle, ou d'une façon innocente. Vous avez maintenant deux plateformes. Vous avez l'information qui était disponible au board, et ensuite vous avez de la mauvaise information qui a été donnée au board de façon innocente ou d'une façon malicieuse. Donc vous avez, il faut donc juste élargir l'ampleur, Graham, mais ce serait à la personne qui jette le défi d'amener des évidences et d'avoir du support pour cette évidence, pour montrer qu'il y a vraiment de la preuve. Il faut qu'il y ait de la substance pour que nous puissions agir, pour qu'il y ait une action, disons. Bruce Tompkins, ok, Bertrand, et ensuite Ray. Bertrand, je suis désolée d'être arrivée assez tard dans cette réunion. Je voudrais faire un commentaire général qui m'est venu après la discussion que nous avons déjà eue sur ce sujet. On ne peut pas utiliser un simple instrument, disons, un outil là-dessus. On n'utilise pas la même carabine pour tuer un éléphant que pour tuer un petit oiseau. De ce côté-là, je vois qu'il... Le mécanisme de reconsidération qui est inclus dans les statuts, un peu comme le problème que nous avons avec Wiz. Avec Wiz, on a quelque chose qui a été parfaitement adapté à une période spécifique. Et c'est quelque chose qui est difficile à gérer, à moins qu'on distingue entre les différents utilisateurs et que l'on développe les outils de façon de la bonne manière. Ici, c'est un peu comme, par exemple, une des choses qui a été mentionnée, qui a été faite hier à propos du GAC. Ce qui se passe, c'est qu'un GTLD, par exemple, qui n'est pas suivi comme cela a été promis, ce n'est pas une chose à reconsidérer. C'est un mécanisme de conformité. C'est un problème, donc, pour le processus, pour que nous ayons un mécanisme de renforcement qui permettrait à quelqu'un, disons, vous savez, l'entité qui dit « je vais faire X, mais qu'il ne le fait pas ». Par exemple, hier, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui disait, qui disait qu'un candidat avait dit, à cause du fait que l'information publiée dans la candidature est publiée, bien sûr, nous n'avons pas dénoté ou publié quelles étaient nos intentions ou la politique derrière ce que nous allons faire. Parce que ça, c'est problématique, parce que nous, quand on demandons des engagements du GAB, nous voulons nous assurer que ces déclarations sont respectées à la lettre. Donc, pour résumer, le défi devant nous, nous devons construire un appareil de qui serait quasi légal ou juridique, pour voir s'il y aurait un outil qui serait fait à l'origine pour répondre, par exemple, si le personnel a eu un mauvais comportement avec quelqu'un dans la communauté, et on a besoin de quelqu'un qui aille vers le board, qui fasse un appel vis-à-vis de board. On a besoin d'avoir une plus grande ampleur dans les mécanismes de révision. La personne qui fait les recommandations serait la même que celle qui prendrait la première décision.
Lorsque vous parlez d'un processus où quelqu'un postule pour une forme d'accréditation ou une autre, et il y en a plusieurs, il y a le processus d'un nouveau GTLD, mais également des candidatures qui sont traités de manière routinière pour devenir des registraires. Donc, vous peut-être vous postulez pour un CFO, le position de CFO d'ICANN. Dans cette situation, vous vous basez sur des matériaux qui vous sont donnés pour évaluer si quelqu'un est qualifié, c'est-à-dire le processus des nouveaux GTLD, que une reconsidération entre en jeu si cette personne que vous nommez est le CFO, si elle n'a pas si cette personne n'a pas de diplôme de comptabilité, c'est une fausse déclaration, donc vous revenez sur votre décision. Donc c'est le type de décision lorsque vous faites des décisions basées sur des informations qui sont fausses. Ce qu'on parlait avec le GAC, c'est que lorsque vous avez donné à quelqu'un une accréditation, vous avez accrédité quelqu'un pour être médecin et ensuite ils font quelque chose. C'est un problème de conformité. C'est pas vous qui leur donnez un diplôme de médecine, mais vous les empêchez d'être médecin si ils commettent des erreurs par la suite. Donc il y a une différence. La reconsidération est au moment où, si quelqu'un est qualifié pour quelqu'un, vous l'avez décidé. Si les informations étaient fausses, servant de base à la décision, donc il y a une reconsidération. Donc c'est différent. Donc il y a une différence entre la fonction de conformité plutôt que d'approbation. Je suis tout à fait d'accord, dit Bertrand de la Chapelle. Mais dans le cas vous manquez, que vous avez mentionné, il y a une question de retard aussi au sein d'une période dans le...
The end of time.
Ou bien jusqu'à la fin des temps. Cette discussion est concentrée uniquement sur les nouveaux GTLD. Je pensais qu'on parlait de la reconsidération ici. Dans le cas de la reconsidération, toutes les demandes que nous avons eues n'avaient rien à faire avec quelqu'un qui postulait pour des nouveaux GTLD. Donc, en regardant d'une perspective, pas d'une c'est pas une application pour devenir un registreur, un nouveau GTLD, dirait Plézac, mais au terme plus large, pour faire une référence d'une discussion que j'ai entendue hier à New York entre M. Obama et M. Romney, la presse ont fait une vérification de faits. Ils sont devenus fous. Donc, on parle de délibération due lorsque le board prend sa décision initiale. Quel est le degré de délibération qui doit avoir lieu pour s'assurer qu'ils agissent sur la base de toutes les informations disponibles ou bien les informations qui leur sont présentées et toute l'information disponible. Donc ceux qui défendent une position, voilà mon dossier si vous voulez. Et alors j'ai présenté toutes les informations. Est-ce que c'était au board de faire d'autres choses encore et de vérifier l'acuité de tout ceci? Si c'est le cas, le processus sera bien plus long. Et c'est important parce que lorsqu'on arrive à la reconsidération, on dit qu'on doit faire ça et poser la question, est-ce qu'il y avait d'autres informations disponibles ou bien est-ce que les informations données au board étaient incorrectes? Si je dois le faire pour la reconsidération, il me semblerait logique de le faire au premier cas pour qu'il n'y ait pas la possibilité d'avoir une reconsidération. Donc je pense que je veux avoir une discussion quant à le rôle et la responsabilité du board pour prendre des décisions en premier lieu. Si vous dites que dans la reconsidération, il faut élargir la perspective, la portée. Murphy King, est-ce que je peux essayer d'aider ici? Graham McDonald, oui, Murphy King, un board a le droit de se fier aux informations placées qui lui est présentées et l'acuité de ces informations, à moins que quelque chose dans les informations donne lieu à une enquête que vous pensez devrait porter sur quelque chose. Alors vous devez poser les questions, vous devez enquêter. Si quelque chose que vous lisez suscite un besoin d'une enquête, vous devez avoir ces informations. Sinon, vous allez perdre la confiance ou bien vous sentez... Sinon, le board ne pourra pas fonctionner. Ils auront les problèmes. avec des problèmes avec la personne qui a soulevé les problèmes, les doutes, et vous avez donc une enquête qui n'en finit jamais, etc., etc. Quand vous faites une enquête, que vous posez des questions, vous devez accepter ce qui est présenté. Graham, McDonald, ce sont eux ceux qui contredisent, qui doivent soutenir les allégations. Alors ce n'est pas le board qui doit déterminer si les mauvaises informations sont fournies. C'est la personne qui postule, qui demande l'enquête, qu'il y a des preuves et convaincre le BGC que quelque chose doit être analysé plus en profondeur. Ripple-Zack, donc, vous dites, donc, Murphy King, l'information pour une demande pour davantage de reconsidération. Ripple-Zack, donc, vous dites qu'il y avait de nouvelles informations qui existaient au moment et que le board ne disposait pas et c'était la personne de présenter ces informations. Et vous dites également, c'est au la personne qui présente la pétition, ce sont eux qui doivent argumenter sur l'acuité des informations originales. Donc, alors le board doit accepter leur argument quant à l'acuité ou bien est-ce que l'on doit revenir et faire un contrôle de des informations. Non, c'est au BCG de décider au moyen de ces processus. Ils acceptent ou ils n'acceptent pas ce qui est présenté devant lui et les matériaux qui soutiennent le dossier de la personne qui fait la pétition doit être présenté au BGC, par le pétitionnaire au BGC. Donc, il n'y a pas d'activité du board, à moins que soit le BCG accepte et dise oui, il y a des informations fausses. Et le board, maintenant, doit reconsidérer en tenant compte des informations correctes. C'est comme ça que je vois que le processus devrait se dérouler. Mais le filtre est, dit Bruce Duncan, est-ce que nous avons vérifié que ces nouvelles informations sont correctes? Et sur la base de cela, nous reconsidérions, réanalyserons la décision. D'abord, il faut décider si on est d'accord avec la personne qui fait la pétition. Des avocats pourraient faire une analyse de cela. Et ensuite, quand les faits sont établis, nous pouvons passer à la phase suivante. Becky Burf, pour le fin d'enregistrement, j'aimerais dire que j'espère que vous ne pensez pas que la participation dans la salle représente l'intérêt que la communauté porte à ce thème. Je pense que c'est vraiment un problème très important pour la communauté et j'ai pu parler avec vous là-dessus et je pense que la communauté est très intéressée par le processus. Nous sommes vraiment dans les premières phases. On sait que on est vraiment dans le jus et on n'a qu'une heure ici. Et j'aimerais vraiment passer à aux autres thèmes ici. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas vu de rapport écrit. J'espère que nous aurons la possibilité de regarder les épines, mais j'espère que nous pourrons également avoir une idée sur vos autres réflexions. Il nous reste 20 minutes et on est resté fixé sur la définition des informations incorrectes. C'est une présentation PowerPoint, ce n'est pas le format final qui ira dans la révision pour la révision des statuts. Mais Graham, si vous pouvez finir la diapositive. Graham, Ray Plezac, j'aimerais faire un dernier argument. La reconsidération est-elle finale? Est-ce qu'il y a une possibilité de reconsidérer la reconsidération? Je ne veux pas que cela... Je n'ai pas besoin d'une réponse maintenant, mais lorsque... J'aimerais soulever si une affaire est mise devant le board pour la reconsidération et le board accepte, est-ce que c'est l'acte final sur cette affaire? Ou bien est-ce qu'on peut continuer le processus? Et je n'ai pas besoin d'une demande maintenant. Je voulais juste soulever la question. Ray, Mervyn King, nous avons imaginé cela et dans la demande de reconsidération que nous avons ajoutée, beaucoup de termes et de conditions sont ajoutés que le demandeur ou la personne présentant la pétition sait que les termes et les conditions dans lesquels il soumet la requête et la décision du board est finale. Graham MacDonald, quand on regarde les détails de la reconsidération, que ce soit l'action ou l'inaction du staff ou l'omission du staff, le BCG devrait pouvoir faire une décision là-dessus et cela devrait devenir la décision. Mais cela se rapporte aux actions ou omissions du personnel et rien aux fonctions du board. Graham, si vous pouvez terminer la diapositive et j'aimerais ensuite ouvrir le micro aux commentaires. Gardons-le sur le thème principal parce qu'il y aura un rapport et davantage d'informations. En ce qui concerne les révisions de reconsidération, dit Graham MacDonald, il devrait y avoir des limites imposées sur les soumissions pour ne pas limiter le matériau, mais les preuves de sous-jacentes qu'une partie présente devant le BCG ou un panel indépendant. Donc, par exemple, 25 pages, on regarde les recours collectifs, on voit si c'est possible, et il y a des causes ou des connexions entre les circonstances de la plainte et le dommage identifié. Alors, les dossiers peuvent être réunis. On voit également des questions similaires dans différentes affaires pour savoir si ICANN pouvait consolider les séances sur ces affaires pour qu'il y ait une décision unique plutôt que plusieurs décisions à part. Quand on analyse spécifiquement les demandes de reconsidération, on accepte que la jurisprudence américaine et que le board puisse demander à ce comité de revisiter les décisions du board, mais ça ne peut pas être délégué encore à des sous-groupes ou à des membres individuels. Comme je l'ai dit, quand la reconsidération se porte aux actes du personnel, le BCG devrait être le corps déterminant et pas forcément retourner au board pour être examiné. On devrait maintenir ce recours gratuitement, à moins qu'il n'y ait notification à l'avance que des circonstances extraordinaires existent. Il devrait y avoir des provisions pour un recours abrégé et négocié pour une audience. Et si vous acceptez une suspension, ça peut affecter les opérations d'autrui. Il vaut mieux avoir une audience très rapide au lieu d'accepter une suspension et que les affaires restent ainsi dans une zone intermédiaire pendant très longtemps. Si les gens se basent sur une décision qui a été prise et on accepte la suspension, si d'autres parties subissent un dommage à cause de cela, ils n'ont aucun recours pour des remèdes et ils ne peuvent le faire qu'à travers un processus judiciaire. Nous ne pensons pas que la médiation et la conciliation soient une partie appropriée de la reconsidération, comme Ray l'a dit et Mervyn aussi. Il ne devrait pas y avoir d'appel. Une fois que la décision a été prise, ce serait la fin de ce processus. Je me tourne vers les requêtes les requêtes indépendantes sur le fond. Il devrait y avoir des négociations de bonne foi aux parties avant que l'initiation des procédures. Il devrait y avoir peu de temps, une période de 2 ou 3 semaines très courte. C'est un processus informel entre ICANN et la partie pour essayer de trouver leur propre solution au problème sans impliquer une représentation juridique. Je pense également qu'il devrait y avoir un processus formalisé de conciliation lorsque une application pour une révision indépendante a été présentée et devrait être présentée et contrôlée par le panel indépendant. Et nous allons voir comment cela devrait être stipulé dans quelques minutes. Nous pensons qu'il devrait y avoir un objectif général, que les affaires devraient être jugées dans les 6 mois après la soumission d'une plainte initiant les procédures. J'ai parlé déjà de que 21 mois, comme c'est actuellement, c'est beaucoup trop long. Au lieu d'avoir un panel ad hoc pour entendre des affaires, il devrait y avoir un panel international de 6 à 9 membres nommés, et les parties alors ont le droit de choisir si elles veulent aller à une session de 3 personnes pour trouver une entente. Alors on pense que le président du panel pourrait choisir les panélistes afin de prendre une décision finale sur le dossier. Nous pensons que la nomination d'un panel permanent va à la fois abréger les procédures. Quelqu'un pourrait être ainsi formé, mieux comprendre les processus ICANN, et cela devrait réduire le besoin d'avoir des recours à des audiences. Nous pensons également qu'une fois qu'une recommandation a été produite, il devrait clore les choses. Plus d'appels ne devraient être autorisés. Ce serait très important d'avoir une banque des précédents, et il pourrait ainsi se servir comme base pour des affaires par la suite, puisque des cas auraient été déjà jugés, afin d'assurer une consistance et qu'il y ait qu'une certaine jurisprudence se constitue. Donc c'est un survol très bref. Nous ne sommes pas forcés d'appliquer ces changements en forme finale. Nous allons publier vers la fin de la semaine prochaine un document de discussion, et nous apprécierons des commentaires dans le document de discussion qui détaillerait davantage les discussions de ce matin, et nous devrons tenir compte la gentille offre de Bruce d'avoir davantage de temps. On pensait qu'il fallait concentrer tout cela avant la réunion du board, avant Noël, mais si on peut voir comment on se sent après avoir préparé le document et quelle réponse suscite ce document lorsque ce document est divulgué à la communauté. Je pense, Bruce dit, est-ce que vous avez assez d'informations? Et ça a deux volets. Est-ce que vous avez assez d'informations? Et puis le feedback public. Dites-nous si vous voulez avoir davantage de temps. C'est Mervyn, allez-y.
Mervyn au micro. Je vous remercie. Une des directions pour recommander, donc faire des recommandations à un panel existant, c'est la question du coût. Parce que si on avait un panel de 6 ou 9 membres fixes, disons, il faudrait qu'ils comprennent les processus ICANN. Si vous avez un directeur, un président de ce panel, et que vous voulez payer, disons, un salaire d'ici la fin du mois, de l'année, au début de l'année, mais si, disons, je ne sais pas moi, 20 000 dollars qui seraient mis de côté pour les panélistes, quelques 10 000 dollars, de quoi on serait d'accord, le coût serait limité. Sinon, si le coût devient prohibitif, si on doit payer des experts, des avocats experts, nous coûterait 600 dollars de l'heure. le coût deviendrait prohibitif. Il faut vraiment qu'on trouve, qu'on prenne des limites, qu'on mette en place des limites. Merci. Je vais vous demander actuellement si c'était la rationnelle, si c'était la vitesse. Mais il faut aussi penser à... Mervyn dit, oui, c'est la vitesse, mais aussi l'expédition. Et Graham dit, oui, la vitesse et surtout l'expertise. Il faut qu'ils aient de l'expertise dans l'ICANN. Il faudrait qu'ils aient... il faut qu'il y ait du contexte aussi. Ryan doit attendre, Becky, Bruce au micro. Nous avons à peu près 7 minutes. Je vais peut-être vous demander d'être bref avec vos questions. J'ai plutôt un commentaire. Je vois qu'il y avait du langage plutôt traditionnel dans ces discussions. Cela forme un peu l'opinion de ce que le processus de reconsidération est. Donc, on doit faire attention et d'enlever tout le langage de genre judiciaire dans ce processus. Becky, au micro. Oui, j'aime vraiment l'idée d'avoir un panel existant. Je pense qu'il y aura la capacité de construire une base de précédents ici. Je crois que c'est important et qu'il faut augmenter l'efficacité. Ce serait plus important, c'est la chose la plus importante, la plus positive que vous puissiez faire. Moi, je vais utiliser mes mots d'avocat, mais on doit penser à la durée et quand cela peut être amené. Il y a le sujet doit être amené sur la table. On a tendance à pousser les choses à l'arrière et de tout un processus long. Et à mon expérience, c'est que cela cause beaucoup de problèmes. Excusez-moi. Le panel devrait avoir, Bruce, Becky, vous pensez que le panel devrait avoir un meilleur contrôle du processus plus tôt, et comme ça, il pourrait donner des directions et faire bouger le cas en question plus rapidement et d'aller de l'avant, et il y aurait moins de coûts puisque la chose serait plus rapidement et pourrait être amenée devant le board plus rapidement. Il faudrait donc regarder ces mécanismes. Becky, je faisais un point un petit peu différent. Il y a toute une série de considérations qui se passent et il y aura peut-être un événement qui se passerait au milieu de tout ça. Et si cet événement était résolu, cela pourrait prévenir des litiges dans le futur. Donc, s'occuper d'un problème alors qu'il se passe nous éviterait bien des problèmes. Si le panel lui-même, Graham dit, si le panel lui-même a un bon... comprend bien ce qui se passe dans les affaires traitées, cela rendrait les choses plus faciles. Mike Roberts, excusez-moi, quand le PDG a fait des provisions qui ont été mises en place, je voulais j'apprécie vraiment l'attention que vous avez pour essayer de clarifier et de faciliter le processus. Les cas en représentation. Pardon. Je voudrais vous encourager aussi d'être un peu plus clair, disons, dans vos documents, dans les documents que vous produisez. Les parties ont toujours des recours. Par exemple, en Californie, les parties qui se plaignent ont toujours des recours en Californie. Il y a des provisions pour cela dans le droit criminel. Donc, il faut que... il y a des gens qui ne sont pas tout à fait... qui ont peur un peu de cela. Et ICANN, je crois, essaie de créer des procédures quasi-judiciaires qui seraient indépendantes des bases sous lesquelles elles opèrent actuellement. Il y a peut-être quelque chose ici que vous pourriez en tirer de ces matériaux. Disons, vous pourriez peut-être tirer quelque chose de cela. Graham, oui, merci. Bruce, quelqu'un a des commentaires additionnels? Bon, donc nous aimerions fermer cette session. Il semble que nous avons le panel, donc beaucoup de soutien vis-à-vis des recommandations que nous avons reçues jusqu'à présent. Il me semble que tout cela est très sensible. Nous attendons le rapport final. Merci à tous. Merci à tous pour ceux qui sont là pour leur première session aujourd'hui. Merci. Merci. Au revoir, Rich.
Well, I think they're sort of practical, sensible suggestions. And
we try.
Yeah, I know you do. I don't always get that.